Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour les amis qui nous rejoignent sur La cale aux mille trésors ou Bible Espoir. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible. Et nous allons aborder un sujet tout à fait particulier. Et je vous propose une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25 et au verset 8. Alors voilà ce que nous partageons, nous lisons ensemble. Dieu engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé, et en ce jour on dira « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Voilà, nous avons matière à réflexion à travers ce premier texte, et nous allons le compléter avec un autre passage, cette fois de l'Évangile, dans Luc, chapitre 7, et au verset 11. Alors, il s'agit naturellement d'un épisode un peu particulier, d'une rencontre, assez triste d'ailleurs, de Jésus, qui rencontre une femme qui vient de perdre son fils. Voilà. On l'appelle, le fils de la veuve de Nain. Alors, je rappelle la référence, Luc, chapitre 7, verset 11. Je lis. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit au jeune homme « Je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Voilà pour notre référence, et j'aimerais donner quelques pistes de réflexion autour de cela. Mais avant, j'ai intitulé ce message « Les voiles perlés de larmes ». Les voiles perlés de larmes. Nous l'avons lu tout à l'heure, il nous est simplement rappelé dans notre premier texte d'Ésaïe, « Le Seigneur essuie les larmes de tous les visages ». Et nous avons ajouté naturellement cette rencontre de Jésus avec cette pauvre mère qui vient de perdre son enfant. Il nous est dit que Jésus fut ému de compassion et lui a dit cette parole étrange, dans les circonstances naturellement, « Ne pleure pas ». Il essuie les larmes de tous les visages et Jésus, en ce qui le concerne, dit ceci, « Ne pleure pas ». Alors j'aimerais donner quelques petites explications sur le titre que j'ai choisi. D'abord, il est question des voiles. Ensuite, il est question des perles et il est question des larmes, les voiles perlées de larmes. Alors naturellement, les voiles ou le voile, il y a toujours derrière des souffrances. Et c'est vrai que la souffrance, la douleur, les peines, les chagrins, les tragédies de la vie, souvent sont cachées. Que dire de plus, sinon de pouvoir supporter, endurer toutes ces drames, toutes ces catastrophes de l'existence. Les voiles, où se cachent les souffrances, où l'on cache les souffrances derrière des voiles. C'est mystérieux, c'est caché, alors naturellement, on le couvre. Maintenant, en ce qui concerne les voiles perlés, on peut tous s'imaginer ce que peut être un voile où il y a là tout simplement des gouttes qu'il y a là sur ces voiles, cette humidité qui se forme eh bien, en gouttes, en quelque sorte, et qui imprègne, qui entache naturellement, ou les douleurs à peine apparentes que l'on dissimule au regard. C'est le complément finalement eh bien, là de nous avons déjà évoqué en ce qui concerne les voiles. Et puis les larmes. Les larmes, peut-être des perles, en quelque sorte, ça peut être comparé. Hein, c'est le chagrin ou les douleurs secrètes qui sont là dissimulées par pudeur. Et au cœur de la détresse, il y a toujours une question d'amour brisé, blessé, on pourrait peut-être dire piétiné, offensé, parce que aimer vraiment, aimer sincèrement, c'est toujours une déchirure, et c'est aussi naturellement, c'est ce qui fait pleurer. Ce sont les détresses de l'amour brutal et inattendu, les fardeaux qui s'étirent dans le temps, cruels et injustes, les pertes qui amputent la vie de ceux qui restent quand il s'agit d'un décès, d'une disparition, et aimer et savoir attendre jusqu'au désespoir. Nous avons un beau texte, souvent usité dans les prédications, c'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Anne, et j'aimerais simplement, brièvement et sans commentaire, donner eh bien là quelques éléments qui peuvent nous faire réfléchir et qui rassemblent autour de cette femme eh bien, les détresses, les situations que l'on attend et qui s'étirent dans le temps, les choses qui nous semblent cruelles et injustes, et puis toutes les pertes, pertes de nos illusions, à commencer par là. Alors qu'est-ce que nous dit finalement eh bien, 1 Samuel, chapitre 1er, nous allons bien le voir, le découvrir ou le redécouvrir. Alors prenons maintenant dans Samuel, chapitre 1er. Dans Samuel, chapitre 1er, nous avons naturellement eh bien, cette parole où il est question au verset 8. Elkana, le mari de Anne, je précise, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu ?» Même question que nous retrouvons naturellement chez Jésus avec la femme eh bien, de Nain. « Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Voilà, un peu plus loin, si nous tournons une page, eh bien, Anne répond au sacrificateur qui la croit ivre, qui la croit eh bien, là, dans une certaine démence ou folie, je ne sais pas. Anne répondit à Élie le sacrificateur, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais, écoutez bien, je répandais mon âme devant l'Éternel. Alors ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Là, nous touchons, c'est vrai, quelque peu le paroxysme de la misère, en quelque sorte. Alors, le sacrificateur Élie reprit la parole et lui dit « Va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Alors elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla sur la parole d'Élie. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et ils se levèrent de bon matin après avoir adoré l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Là, il ne s'agit pas de perdre un fils, mais d'avoir un enfant, parce que Anne est stérile. Et c'est aussi une autre douleur. Là, Jésus dit à cette femme qui perd son fils, ne pleure pas, et elle dit à celle qui attend un enfant, eh bien, là, ne pleure pas non plus. Voilà donc pour cette disposition que nous avons pour l'explication, ces éléments. Et nous voyons que il y a là également, pour nourrir notre message, il y a ici quelque chose, une grande espérance pour le monde entier d'une femme qui pleure, d'une femme eh bien, qui reçoit aussi la parole de Dieu, c'est dans Luc, chapitre 2 et verset 33, où nous avons ces paroles. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon, ce vieil homme, croyant, les bénit et il dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transportera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Nous voyons que Marie, eh bien là, va prophétiquement, par la bouche de Siméon, eh bien, avoir en quelque sorte les perspectives de ce que sera sa vie avec eh bien, son fils, qui s'appelle Jésus tout simplement, et qu'elle aura beaucoup à souffrir en raison eh bien, de la destinée du Christ. Et là aussi, nous pouvons peut-être rappeler le titre « Les voiles perlées de larmes ». Alors, j'aimerais raconter une anecdote qui, en effet, eh bien là, est à notre disposition. Je l'ai mis dans mon message parce que je l'appellerai l'amour douloureux. Oui, l'amour qui fait souffrir. Et il s'agit tout simplement d'une lettre d'un père à sa petite fille qui est malade. Et il écrit ceci. « Ma chérie, avant que tu sois née, j'ai prié pour toi. Dans mon cœur, je savais que tu serais un petit ange et tu l'es aujourd'hui. Je t'ai aimé, ma fille, mais je me suis rendu compte que quelque chose allait de travers et que tu ne te développais pas normalement comme les autres enfants. Je t'aimais quand on t'est déplacé d'hôpital en hôpital, cherchant un peu d'espoir. Je t'aimais quand tes yeux s'embuaient avant de devenir aveugles, quand la sclérose s'est mise à torturer ton petit corps et qu'on a dû te placer un tuyau dans l'estomac pour te nourrir. Je t'aimais quand tes membres tordus te faisaient cruellement souffrir, et cela a duré 10 longues années de supplice pour toi, ma chérie, et j'aurais tant aimé t'entendre prononcer ces mots magiques, « Papa, maman, je vous aime », mais tu ne pouvais parler. Tantôt, Dieu me semblait si proche, tantôt si loin, parfois plein d'espoir, parfois en colère, anéanti. Cependant, je savais que Dieu t'aimait et qu'il nous aimait, car le Seigneur, dans son amour, ne cesse d'être là, tout près de nous, aveugle, malade, sourd, extropié dans nos cœurs et nos âmes. Ma chère petite fille, maintenant tu es libre, et je suis heureux, inondé d'amour, celui de Dieu que j'ai reçu, que tu aies reçu ta couronne en premier. Un jour, nous te suivrons dans le royaume de l'amour parfait. Un ange, tu l'es désormais. Ton papa et ta maman, qui t'aiment si fort. » Voilà, c'est une histoire pathétique, une belle lettre. Alors, je ne sais pas si elle est réelle ou si c'est fictif, mais toujours est-il que ça n'en demeure pas moins. Eh bien là, des mots d'amour, d'un père, de parents à leur fille, qui, nous l'avons compris, eh bien, est atteinte d'une maladie qui va l'emporter. Alors, je crois que, ceci dit, nous avons peut-être besoin d'aller un peu plus loin dans notre réflexion et de partager brièvement quelques passages qui nous incitent finalement eh bien, à comprendre que quelquefois notre vie, notre existence eh bien, là est recouverte de voiles parce que nous ne le disons pas naturellement, nous ne le divulguons pas à tout le monde, mais ces voiles qui masquent, qui couvrent finalement nos souffrances, les souffrances secrètes, et que eh bien, ce voile est perlé de larmes, de nos larmes, de douleurs, de misère. Nous avons besoin de nous souvenir de ceci, et peut-être commencer par une question, mais où est Dieu quand on souffre? Ça, c'est quelque chose, en effet, qui nous interpelle fortement, parce que dans les moments de bonheur, il nous est dit « réjouis-toi ». Mais dans les moments de douleur, de souffrance, eh bien ce même verset de Livre des Proverbes, je crois, eh bien véritablement nous interpelle et nous pose cette question « mais où est Dieu quand on souffre? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et qu'ai-je fait pour justement eh bien, vivre cela ?» Alors, quelqu'un de répondre aussitôt, une parole que nous connaissons bien, qui, en effet, est souvent citée, eh bien, il est en vous qui souffrez et pas dans ce qui vous fait souffrir. Et ça, c'est une parole vraiment de réconfort et d'espoir. Je le rappelle, que Dieu est en nous, parce que nous souffrons en raison de nos souffrances, mais il n'est dans aucune manière dans ce qui nous fait souffrir. Au contraire, eh bien, lui connaît tous ces voiles que nous mettons sur notre vie pour ne pas montrer finalement aux autres bien notre détresse. Et puis, il y a naturellement ce qui trahit. Eh bien, ce voile, ce sont les larmes qui perlent, c'est vrai, et qui véritablement, eh bien là, en effet, montrent toute à la fois notre misère, mais aussi, ça peut être, eh bien, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La consolation, eh bien, nous l'avons, par exemple, dans un texte, c'est les larmes de Jésus sur Jérusalem. Oui, parce que nous parlons de pleurs, et dans l'évangile de Luc, au chapitre tout simplement 19, alors nous allons pouvoir nourrir cette parole, au chapitre 19 et au verset 41, et je dis le texte, « Comme il approchait de la ville, comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur elle et il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Elles sont là voilées en quelque sorte. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, t'enfermeront, te serreront, ils te détruiront et ne laissera pas en toi pierre sur pierre parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Il y a un temps propice dans nos souffrances et dans nos pleurs, nos larmes. Eh bien, c'est qu'il faut véritablement savoir, être convaincu que Dieu n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre secours. C'est ce qui nous permet de tenir. C'est ce qui nous permet également, eh bien, d'endurer, de supporter. Et c'est ce qui nous permet finalement, eh bien, de voir une issue heureuse. Alors, c'est vrai que Jésus a versé des larmes sur Jérusalem. C'était juste avant la crucifixion. Et il n'a pas pu se retenir. Oui, Jérusalem, Jérusalem. Et il pleure, naturellement, sur cette ville qui est, eh bien, là où il va mourir. Et puis, on s'aperçoit que la réponse, c'est l'incrédulité et le refus des habitants de Jérusalem. Mais, en tous les cas, Jésus a fait la démonstration qu'il aimait cette ville, naturellement. Et puis, il y a son ami Lazare également, parce que nous voyons qu'à un moment donné, il y a tout un chapitre dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 ou 11, chapitre 11 plutôt, où Jésus, à un moment donné, c'est la plus petite phrase du Nouveau Testament, où il nous est dit que devant le tombeau où était allongé Lazare, à un moment donné, il nous est dit « Jésus pleura ». Ouais, si les hommes pleurent, nous croyons que Dieu pleure sur l'humanité. Jésus a pleuré sur cette ville, la ville du grand roi, comme on l'appelle, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Là, eh bien, Jésus a pleuré. Nous voyons que Jésus a aussi pleuré pour eh bien, son ami Lazare, puisque cela nous est dit. Mais il sera bientôt ressuscité. Et il donnera, Jésus donnera, s'exprimera publiquement cette formidable prière. Je te remercie, mon Dieu, devant naturellement Lazare mort. Je te remercie, mon Dieu, de ce que je sais que tu m'exauces toujours. Voilà ces paroles qui sont des encouragements. Alors, c'est vrai que Dieu pleure sur le monde perdu. Car ce Dieu-là a donné son Fils unique. C'est ce que nous dit le verset clé. Le verset principal, le verset capital de la Bible, que nous trouvons dans l'évangile de Jean, où il est dit ceci, que Dieu a tant aimé, ouais, et il a tant aimé et pleuré. Il a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, c'est-à-dire la personne de Jésus, afin que quiconque croit, ça c'est le moyen, c'est le secours, c'est, on pourrait dire, eh bien là, la main tendue de Dieu, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est la simplicité. Il suffit de croire, il ne s'agit pas de faire, il ne s'agit pas de gagner, il ne s'agit pas d'acheter, il suffit tout simplement au fond de son cœur, par une conviction profonde, car quiconque croit ne périsse point. Il soit arraché, qu'il soit retranché finalement du malheur, de la perdition, afin qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'espoir. Dans Zacharie, un autre passage, il y a beaucoup de citations ce matin, mais je pense que nous nourrissons de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait naître la foi. Et dans Zacharie, chapitre 12 et verset 10, il est dit « Ils tourneront les regards vers moi, dit Dieu, celui qu'ils ont percé », en parlant des Juifs naturellement, mais comme tous les hommes finalement jusqu'à nous, « Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique », souvenez-vous de la veuve de Nain, « Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, chagrin du ciel, mais joie de larmes et d'espérance. » Parce que le seul moyen de pouvoir transformer le négatif, transformer ce qui porte la mort et la transforme en vie par, eh bien, Père éternel, est-ce que nous pouvons appeler cette résurrection spirituelle que l'on peut nommer aussi pour nous, déjà dans notre vie, la nouvelle naissance, eh bien, ce chagrin du ciel, mais qui est fait aussi imprégné, qui perle de larmes de joie et d'espérance. Je termine simplement, notre message est très bref ce matin, mais ça n'a pas d'importance parce que il y a suffisamment d'éléments de réflexion pour nous donner la force et nous donner, eh bien là, la capacité, la faculté de croire. Et je termine par cette dernière citation. C'est dans le livre de l'Apocalypse, et où il est question d'une belle promesse de Dieu au chapitre 7 et au verset 17. Il est dit ceci, car l'agneau, vous savez, on doit toujours se souvenir lorsqu'il est question de l'agneau dans la Bible, dans l'Ancien Testament, eh bien c'est un animal que l'on sacrifie à la place, et pour les, en lieu et place pour les péchés des hommes. Et là il s'agit de l'agneau, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, la personne de Jésus-Christ, qui elle a été sacrifiée à la croix du calvaire, qui elle a fait la médiation, l'expiation, qui eh bien, a pris, a donné sa vie pour nous. Alors, car l'agneau, donc comprenez Jésus, qui est au milieu du trône, et là il s'agit déjà de la position glorieuse de Jésus dans le ciel, pour les hommes qui sont sur la terre, car l'agneau est au milieu du trône, il les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle formidable parole, quel formidable espoir de savoir, comme nous l'avons vu dans Ésaïe, comme nous l'avons parcouru à travers différentes citations dans notre texte. On pense à Anne, on pense à la veuve de Nain qui voit mourir son fils, où là nous voyons qu'il y a des pleurs, mais il y a des paroles de consolation, d'insignes paroles de consolation. Et je crois que ça c'est quelque chose de formidable, et puis nous pouvons nous souvenir quelque peu eh bien, de cette belle histoire que nous avons rencontrée sur cette lettre, de ce père, de cet amour douloureux qui écrit à sa petite fille, et qui là, eh bien, ne va pas cesser, malgré finalement les circonstances, malgré la longueur de l'épreuve, malgré les souffrances qui sont réitérées chaque jour dans eh bien, la vie de son enfant mourante, eh bien, de ne jamais cesser d'aimer Dieu, de lui faire confiance. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce matin, et qu'ainsi, eh bien, nous puissions véritablement mettre notre foi. Chacun sait d'entre nous, eh bien, ce que peut être la souffrance. Peut-être partagez-vous une souffrance particulière, peut-être êtes-vous là confronté avec la disparition d'un être cher. Peut-être avez-vous là, eh bien, la connaissance et aussi dans le ressenti une maladie que l'on qualifie de mortelle et vous ne savez pas où vous tournez. Eh bien, là, je crois que les paroles qui sont à votre disposition, paroles de la Bible, c'est pas un discours, ce n'est pas un prêche, ce n'est pas autre chose qu'un message qui, eh bien, nous montre encore une fois de plus que, eh bien, les voiles derrière lesquelles nous nous dissimulons, derrière nous cachons nos souffrances, eh bien, elles sont perlées certes de larmes, mais Jésus nous dit, il essuiera toute larme, tout simplement, des visages, des yeux. Alors Jésus nous dit, ne pleure pas. Peut-être encore mieux, il nous dit, ne pleure plus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Moi, je te prie particulièrement pour des hommes et des femmes, des personnes âgées, en fin de vie, Seigneur. Je te prie pour des jeunes gens, des jeunes filles, qui sont là, Père éternel, avec des perspectives, c'est vrai, devant eux, de l'existence, mais qui véritablement, Père éternel, eh bien, entame cette vie avec des maux, avec des déceptions, avec des crève-cœurs, avec, là, Seigneur, des rejets, de la souffrance physique, une souffrance morale, tourmentés par toutes sortes de choses dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu l'as dit et que nous le retenons. Tu nous dis, ne pleure pas, ne pleure plus, parce que je suis avec toi. Je suis tous les jours avec vous, tous les jours avec toi, jusqu'à la fin du monde. Alors prends courage, prenez courage, faites confiance au Seigneur, parce qu'il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer les larmes en joie et de nous donner véritablement, Seigneur, cette force dont nous avons besoin. Et ainsi, Père éternel, c'est toi qui, là, enlève toutes ces larmes de nos voiles et qui véritablement les transforme en espérance. Merci Jésus, bénis ses amis, accorde-leur ta grâce, fortifie-les, encourage-les à lire ta parole, encourage-les surtout à vivre ta parole et à croire de tout leur cœur. Seigneur, que tout ce que tu nous dis devient possible, devient réalité, alors Seigneur, pouvons te dire, fortifie-les dans leur foi. Merci Jésus, merci pour ta bonté, ta fidélité. Amen, amen.